Nous remercions chaleureusement les chanteurs. Ils nous ont déjà introduits dans ce qui est devant nous. Nous venons comme nous sommes, mais nous ne partons pas comme nous venons. Celui qui vient au Seigneur s'en va autrement qu'il n'est venu à lui. Il peut déposer son fardeau. Il peut laisser sa détresse derrière lui. Il peut repartir libéré dans la bénédiction. La deuxième pensée que nous avons tous entendue était « Jour glorieux ». Quel jour glorieux ce sera. Il m'est alors venu à l'esprit que chaque réunion que nous avons est une préparation à ce jour glorieux. Et c'est pourquoi nous venons écouter la parole de Dieu. Le cantique 649 s'y prête certainement. Fais-moi taire, Seigneur, c'est ma supplication. Silence, faire silence pour voir les merveilles de la parole. Faire silence pour écouter ton langage. Faire silence pour être volontiers seul avec toi. Avant la prière, je voudrais lire quelques versets du chapitre 8 de Romains qui me sont venu à l'esprit pendant que les chanteurs chantaient, la chorale chantait. Romains, chapitre 8, du verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation ou l'affliction, la persécution ou la faim, le manque de vêtements, le danger ou la hache du bourreau? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Levons-nous et adorons. Père céleste, nous te remercions de tout cœur d'avoir permis à toutes ces paroles de devenir une réalité divine dans nos vies. Aussi certain que tu as révélé ton amour en Christ à Golgotha, ô Dieu, et que nous avons été rachetés par cet amour divin et que nous avons été faits fils et filles de Dieu, nous sommes liés à toi pour toute éternité. Tout cessera. L'amour ne cesse jamais. Ô Dieu, tu es amour. Et celui qui demeure en toi demeure dans l'amour. Que tu puisses nous bénir aujourd'hui, Seigneur bien-aimé. Tu connais les différentes requêtes, les besoins, les tentations, Seigneur fidèle, les requêtes, quelles qu'elles soient, manifeste dans ce service divin que tu es présent en tant que sauveur, en tant que guérisseur, libérateur, celui qui tient sa parole. Aujourd'hui encore, ta parole ne reviendra pas vide à vide, mais elle servira à accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé. C'est en toute conscience que nous nous plaçons, nous et toute cette réunion, sous la couverture du sang de l'agneau. Seigneur bien-aimé, purifie nos cœurs, nos lèvres, nos pensées, afin que nous puissions nous présenter devant toi. Nous voici. Tu dis, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est ce que nous faisons maintenant. Et nous t'invitons à être au milieu de nous, à être celui qui parle, celui qui agit, celui qui sauve et qui guérit. Seigneur, beaucoup de cœurs sont blessés. Tu veux nous faire du bien aujourd'hui, vraiment du bien. Seigneur, et créer une atmosphère céleste au milieu de nous. Nous te demandons aussi la conduite de ton Saint-Esprit. Accorde la grâce de parler et la grâce d'écouter. Nous t'en remercions. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je voudrais parler de la pensée connaître Dieu. Et pas seulement de connaître Dieu, mais aussi de connaître ce que Dieu fait. Et pour connaître ce que Dieu fait, nous devons reconnaître ce qu'il envoie avec sa parole pour nous donner des informations divines. Je voudrais lire un certain nombre de passages bibliques à ce sujet. Avant de le faire, je voudrais souhaiter une très, très cordiale bienvenue dans le précieux nom de notre Seigneur à tous ceux qui sont parmi nous aujourd'hui. Peut-être pour la première fois, j'ai toujours l'intention de saluer en allemand suisse, en ce lieu, mais je n'y arrive pas. Je n'ai probablement pas assez de courage pour parler, pour saluer en allemand suisse. Commençons avec l'évangile de Jean. Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 14. À partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Ici, il est écrit, Jean 14, verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Une parole, une pensée très importante. Les gens disaient autrefois, « Nous le connaissons. Nous connaissons ses frères. Nous connaissons ses sœurs. Nous le connaissons. » Mais ils ne le connaissaient pas. Je relis. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Alors Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous Et tu ne m'as pas encore reconnu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Si nous regardons la chrétienté, dans la chrétienté aujourd'hui, et nous ne le faisons pas par amour de la critique, nous le faisons avec de la douleur dans le cœur. Il n'y a pas de véritable connaissance de Dieu. Il y a la théologie traditionnelle. Il y a les doctrines. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais la révélation divine sur Jésus-Christ, la révélation divine de la parole et de la volonté de Dieu n'existe que là où il peut se révéler lui-même aux siens. Il a dit, un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Il y a sur terre des gens à qui le Seigneur se révèle. Des personnes qui le reconnaissent et qui sont reconnues par lui. Je voudrais lire dans le même chapitre, Jean 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quelle parole merveilleuse. En ce jour-là, en quel jour, quand cela devait-il arriver? Vous pouvez lire le contexte. Le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous. Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, et il vous révélera toutes choses. En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père. Vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il relit le verset 20, Jean 14. Ça, c'est très important. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Aussi certain que Dieu était en Christ et qu'il a réconcilié le monde avec lui-même, il a ensuite fait sa demeure dans les réconciliés. Il est en nous et nous sommes en lui. Pouvez-vous croire cela? C'est une réalité divine. Vous connaissez la formule que Frère Branham a probablement utilisée à plusieurs reprises. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et ensuite Dieu en nous. Trois âges et époques différents. Des formes de révélation en tant que Père, Dieu était au-dessus de nous. Dans le Fils, il était avec nous. Parmi nous, par le Saint-Esprit, il est en nous. Et les Saintes Écritures disent qu'il habite dans nos cœurs par la foi. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. La foi passe par la porte ouverte, la foi nous relie à Dieu. Sans foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dans Jean 17, je lis le verset 7. Jean 17, verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Maintenant, ils ont connu. Ici, il ne s'agit pas seulement d'avoir compris humainement une chose. Il s'agit ici de la révélation divine qui est donnée à ceux qui suivent Jésus. C'est à eux qu'il a promis de se révéler. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Frère Branham a également si bien souligné ce point, à savoir que l'Église entière est fondée sur la révélation. Jésus a dit à Pierre, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et c'est sur ce roc, sur cette révélation divine de Jésus-Christ, que je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cela aussi nous a été dit. Le Seigneur Dieu est à la fois révélé aux uns et caché aux autres. Les uns comprennent, les autres ne comprennent pas. Les uns acceptent, les autres refusent, rejettent. Nous devons nous décider, et en particulier sous la proclamation de la parole de Dieu, approuver et dire oui intérieurement, et chercher et trouver le lien avec Dieu sous la proclamation de la parole. Je l'ai probablement déjà dit à maintes reprises depuis ce lieu. La prédication n'est pas là pour jeter un pont entre l'orateur et ceux qui écoutent. La prédication est là pour mettre l'auditoire en contact avec Dieu, afin que tous sachent et reconnaissent. Il n'y a pas ici de parole humaine, mais la parole de Dieu. Ici, le Seigneur s'adresse à nous tous, à celui dont il utilise la bouche et à ceux qui l'entendent. Avons-nous saisi tout cela de cette manière? Maintenant, ils ont connu, et cela par révélation, que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Il relit le verset 7 de Jean 17. Tout est grâce, tout est révélation. Je voudrais lire de Jean 17, maintenant le verset 25. Le verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est la grâce que Dieu nous a donnée de reconnaître que Dieu était en Christ et de reconnaître que nous aussi, nous pouvons maintenant être en Christ. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Est-ce que nous pouvons dire amen à cela? Il nous a fait connaître son saint nom. C'est aussi à cela que nous pouvons reconnaître que nous l'avons reconnu et que nous avons été reconnus par lui. Une autre parole également tirée de l'évangile de Jean, je crois qu'il s'agit du 8e chapitre, où Pierre a dit à qui irons-nous, même le chapitre 6, ou même le 6e chapitre, je crois, à qui irons-nous, Seigneur, toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et reconnu que tu es le Saint de Dieu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une révélation divine. Reconnaître qui est Dieu, comment il s'est révélé et ce qu'il a prévu pour l'humanité. Je voudrais lire un passage du prophète Agée pour nous rappeler une mission divine, pour nous représenter sous les yeux, montrer sous les yeux ce que c'est qu'un mandat divin que nous devons reconnaître si nous voulons profiter spirituellement d'un ministère que Dieu a envoyé dans notre temps. Agée chapitre 1 du verset 12. Alors, Zorobabel, fils de Séal, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tous ceux qui restaient du peuple, écoutèrent l'avertissement de l'Éternel, leur Dieu, c'est-à-dire les paroles d'Agée le prophète, comme ils le reconnaissaient en tant que celui qui leur était envoyé par l'Éternel, leur Dieu. Oui, le peuple fut saisi de crainte et de crainte devant l'Éternel. Une parole tout à fait merveilleuse. Agée était un prophète. Dieu avait envoyé ses prophètes tôt, matin et soir, pour communiquer le message, son message au peuple. Et vous savez très bien que les prophètes ont été persécutés, lapidés, tués. Le monde n'était pas digne d'eux. Nous pouvons lire tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a toujours eu des gens qui ont accepté et d'autres qui ont rejeté. Cette parole est d'une très grande importance. Il est écrit ici, et tous ceux qui restaient du peuple écoutèrent l'avertissement de l'Éternel, leur Dieu, c'est-à-dire les paroles d'Agée le prophète. Il relit le verset 12, le prophète Agée. Comme il le reconnaissait en tant que celui qui leur était envoyé par l'Éternel, leur Dieu. Cela aussi, nous l'avons souvent souligné. Le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement de la prophétie biblique de l'Ancien Testament. Jean était un homme envoyé de Dieu. Et tous ceux qui ont reconnu qu'il n'annonçait pas la parole en son propre nom, mais au nom du Seigneur, se sont fait baptiser et ont cru au Seigneur auquel il avait fait référence. Il est écrit ici qu'ils ont reconnu que cet homme avait été envoyé par Dieu et que l'avertissement, que le message, que ce qu'il disait avait été adressé au peuple par Dieu à travers lui. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le peuple de Dieu et plus généralement l'humanité a le droit d'entendre la sainte parole de Dieu telle qu'elle est sortie à l'origine de la bouche de Dieu lui-même. Lui-même. Aujourd'hui, chacun dit ce qu'il veut de la parole de Dieu. Et c'est là que réside la grande détresse. Dieu n'a prédestiné personne à dire ce qu'il veut dire sur sa parole. Je veux dire, une personne concernée ou une confession de foi. Dieu n'a destiné que des hommes à porter sa parole comme une semence originale, à ne pas interpréter cette même parole, mais à la transmettre tout simplement, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. J'aimerais le souligner à nouveau ici. Verset 12. Et tous ceux qui restaient du peuple, il relit le verset 12, la deuxième partie. Écoutez, écoutèrent l'avertissement de l'Éternel, leur Dieu, c'est-à-dire les paroles d'Agé. Les paroles d'Agé. Le prophète, comme il le reconnaissait, en tant que celui qui leur était envoyé par l'Éternel, leur Dieu. Des hommes saints avaient été envoyés par Dieu, poussés par le Saint-Esprit, et avaient révélé la volonté de Dieu ici-bas par inspiration divine. Qui étaient-ils? Ou quels étaient les hommes qui entendaient, qui écoutaient? Il s'agissait des hommes qui se laissaient intégrer dans le plan de Dieu. Tous les hommes qui, en leur temps, ont entendu et reçu la parole révélée par Dieu, nous les reverrons dans la gloire. Ce qui compte, ce n'est pas de croire que Dieu a parlé à Moïse. Presque tout le monde le croit. Il ne suffit pas de croire que Dieu a envoyé un prophète. Noé, le même Seigneur a dit, « Comme il fut au jour de Noé, ainsi il en sera. Il en sera-t-il au jour du Fils de l'homme ?» Avant le déluge, Dieu a envoyé un prophète. Pourquoi Dieu envoie-t-il des prophètes? Pour révéler sa parole et sa volonté. Et c'est une parole dure que celle de Frère Branham quand il dit que la parole de Dieu n'a jamais été adressée à un théologien, mais toujours à des hommes qui n'avaient pas de préjugés. Lisez les Saintes Écritures. Moïse faisait paître le bétail de son beau-père Jéthro. Et soudain, en vertu, par la puissance d'un appel divin, un berger de bétail devient un grand prophète, le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Un homme de Dieu qui pouvait dire, un prophète comme moi, Dieu vous suscitera parmi vos frères et toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Qui étaient tous ces hommes dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament? C'étaient des hommes simples qui ne mélangeaient pas ce qui leur était propre avec ce qui était divin. qui n'apportaient rien d'eux-mêmes, mais qui recevaient tout de Dieu et pouvaient ensuite simplement le transmettre au peuple. Regardez Élie, regardez Élisée, regardez tous ces prophètes qui étaient osés, qui a même dit, je ne suis pas du tout un prophète. Je cultive des figues de mûrier et ainsi de suite. Mais Dieu m'a pris et m'a désigné pour annoncer sa parole. Saul, qui était enseigné au pied de Gamaliel, savez-vous quel témoignage il a rendu? J'ai considéré comme des excréments tout ce qui avait auparavant de la valeur à mes yeux à cause de la glorieuse connaissance de Jésus-Christ qui lui a été donnée par révélation. Dieu ne mélange pas. Dieu ne mélange rien. Dieu révèle sa parole et sa volonté. Qui était Jean-Baptiste? Un homme du désert. Soudain, il est apparu. Nous avons là des pêcheurs et des publicains. Nous avons une belle et large dispersion parmi ceux que le Seigneur a appelés. Et il savait qu'à ceux-là, je peux confier ma parole, que je peux les envoyer et qu'ils annonceront en mon nom ce qui doit être dit. Nous passons au chapitre 17 de Matthieu. Matthieu, chapitre 17, les versets bien connus. Mais je voudrais quand même insister sur ces versets. Matthieu 17, versets 11 et 12. Il leur dit, Élie va venir. Et il remettra tout en ordre, ramènera tout à l'état initial. Mais moi, je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Aujourd'hui, il s'agit pour moi, pour nous, de savoir. Ou alors nous reconnaissons, ou alors nous ne reconnaissons pas. Ou alors nous voyons, ou alors nous ne voyons pas. Soit il nous est révélé, soit nous restons dans l'obscurité. Mais ils ne l'ont pas reconnu et l'ont traité comme il leur a plu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leurs mains. La fin du verset 12. Ensuite, le verset 13. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Un homme envoyé de Dieu, mais seule une petite foule a entendu, a cru et a suivi. La grande masse confessait que Jean était un prophète, mais ils n'ont pas reconnu son ministère et ne se sont pas fait baptiser. Je pourrais mettre à disposition un certain nombre de passages bibliques à ce sujet. Il est dit ici, ils ne l'ont pas reconnu, le verset 12 de Jean, Matthieu 17. Les hommes qui sont envoyés par Dieu avec un message divin, qui fait partie du plan de salut divin, doivent être reconnus dans leur envoi, dans leur mandat divin, afin que la volonté de Dieu nous soit révélée au temps fixé. Si nous allions aujourd'hui, et je le dis une fois de plus, non pas comme une critique, mais avec de la douleur dans le cœur, si nous allons aujourd'hui chez les évangélistes de la radio et de la télévision réputés mondialement connu et demandions quel est le message de cette heure. Combien de réponses différentes aurions-nous entendu. Mais il y avait un homme envoyé par Dieu. Il s'appelait Frère Branham. Et nous ne le passons pas sous silence. Nous le reconnaissons. Et nous reconnaissons de ce message. Il lui a été dit, de même que Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, de même tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Bien-aimé, cela peut paraître présomptueux sur le moment. Voulez-vous que je vous ouvre l'évangile selon Jean et que je vous lise qu'il est écrit au chapitre 1 « Afin que tous viennent à la foi par lui ». Jean n'avait pas choisi une grande masse. Je lis maintenant l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 7. Cet homme est venu pour rendre témoignage, un témoignage de la lumière, afin que tous viennent à la foi par lui. Oui, imaginez maintenant que beaucoup auraient pu venir et dire, si cette chose était de Dieu, il n'aurait pas laissé de côté tous les scribes, les grands sacrificateurs et ainsi de suite. Il les aurait tous réunis en concile et leur aurait donné à tous une grande mission commune si cet homme était de Dieu. Et ensuite, il les aurait tous envoyés. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il ne l'a jamais fait. Quand il y a deux personnes, il peut y avoir deux opinions différentes. Mais si Dieu trouve quelqu'un à qui parler, qu'il peut mandater, ça suffit. Ça suffit. Et s'il est écrit ici, pour que tous viennent à la foi par lui. Oui, imaginez, si nous disions à ces grands évangélistes de la télévision et à leurs millions d'auditeurs, écoutez, la parole du Seigneur, Dieu a envoyé un prophète comme il l'avait promis pour que tous soient ramenés par lui à la parole de Dieu et que par son ministère, l'ordre divin soit rétabli avant le retour de Jésus-Christ. Savez-vous ce qui se passerait-il? Ce qui se passerait alors? Il y aurait un grand tumulte. Les gens, eux, rejetteraient. Ils auraient toutes sortes de réactions. N'est-ce pas? Ils refuseraient d'accepter. Et je vais vous le dire aussi pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas réagi divinement et qu'ils n'ont pas accepté le message de l'heure. D'où toutes ces réactions différentes. Quelles sont tes réactions et les miennes? Nous sommes très satisfaits d'entendre la voix de Dieu à travers un homme. C'est suffisant. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et comme au jour du prophète Agée, je pense que nous pouvons dire ensemble, aujourd'hui, ici, en ce lieu, que nous avons reconnu devant Dieu qu'un homme a annoncé la parole par ordre divin et nous a ramenés au modèle chrétien primitif, à la prédication telle qu'elle était au jour des apôtres. Pouvez-vous dire amen à cela? C'est tout simplement nécessaire. Je me répète ici, celui qui ne réagit pas divinement réagira un jour humainement. et exprimera ainsi de lui-même qu'il n'a pas reconnu, perçu l'heure de la visitation de grâce divine. Que disait alors Jésus, notre Seigneur, autrefois? Combien de fois ai-je voulu vous rassembler, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous n'aviez pas reconnu le temps de la divination, de la divine visitation, pardon. Permettez-moi de poursuivre la lecture dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres pour vous présenter les deux côtés. Ceux qui acceptent et ceux qui rejettent. Donc, l'acceptation, rejeter la proposition, comprendre et ne pas comprendre, participer ou ne pas participer. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 25. Ce faisant, il pensait que ses citoyens en viendraient à comprendre que Dieu leur procurerait le salut par sa main, mais ils ne le reconnurent pas, ils ne le comprirent pas. Nous pourrions lire de nombreux passages bibliques jusqu'au chapitre 4 des Hébreux, où il est écrit, « Mais ils ne connurent pas mes voix, mes voix. » Il y avait un murmure, un mécontentement. On s'égarait dans le cœur, malgré la colonne de feu, malgré la colonne de nuée visible, malgré l'eau qu'on buvait du rocher et la manne qui descendait du ciel et qu'on mangeait. Nous devons avoir le cœur dans la chose. Pas seulement un prophète par-ci, un prophète par-là, pas seulement en parler, pas seulement un message et un messager par-ci et par-là et partout, mais avoir compris par révélation divine quel sens et quel but sont liés au message et au messager à l'époque où nous vivons. Il s'agit maintenant de connaître les voies de Dieu avec son peuple. Je lis 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils eussent connu la sagesse divine, peut-être que je devrais lire le verset avant, ce verset-là, peut-être déjà dès le verset 6, à cause du contexte. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Non, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Plutôt comme il est écrit au verset 9, ce que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu, et dont nul cœur n'a eu le pressentiment, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Avez-vous tous bien écouté ici le mot prédestiné? n'est pas en rapport avec des personnes, mais avec une chose. Je le relis encore une fois. Nous avons ici entendu parler de la sagesse qui est présentée au parfait, non pas la sagesse de ce monde, non pas celle que les dirigeants de ce monde peuvent saisir par leur intellect, mais nous présentons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Et écoutez bien maintenant. Le verset 7 de la deuxième partie, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Il existe une prédestination divine, fondée sur la préscience divine. Avant la fondation du monde, Dieu savait qui croirait et qui ne croirait pas, qui accepterait et qui n'accepterait pas. Et c'est pourquoi il pouvait déterminer les deux à l'avance. Ceux qui seraient sauvés et la sagesse divine qui leur serait présentée à l'époque où ils vivraient, conformément au plan de salut divin. Divin. Les deux sont prédestinés. Je le lis encore une fois, pour que cela pénètre profondément. Le verset 7 de 1 Corinthiens 2. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Oui, pourquoi cachée? N'y avait-il pas tant de choses cachées? N'y avait-il pas beaucoup de mystères dans la parole de Dieu que nous ne connaissions pas et que nous ne connaissions pas, oui, mais Dieu a envoyé son serviteur et prophète. Et en effet, depuis la chute dans le jardin d'Éden jusqu'à la fin, il a tout révélé. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais nous pouvons marcher dans la lumière. Une sagesse mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Il n'y a pas de glorification à la première résurrection pour ceux qui n'ont pas été prédestinés et qui n'ont pas accepté la sagesse prédestinée, mais prédestinée et cachée, mais alors révélée par Dieu à ce temps présent, dans ce temps présent. Ce ne sont pas les dirigeants de ce monde, ni les professeurs des universités, mais la parole et les mystères de Dieu qui sont révélés à ses serviteurs et à ses prophètes. Je pense à la dernière réunion à Turin, il y a une semaine aujourd'hui, d'une semaine d'ici, il y avait un professeur de théologie, il y avait différentes personnes, des religieuses, et le théâtre était plein de monde. Et cet homme a demandé une table ronde. Donc une discussion sur le podium, et j'ai dit à mon cher frère Étienne Genton, va le voir et dis-lui que si une question reste ouverte après la prédication, la discussion peut avoir lieu. Et voilà, la discussion n'a pas eu lieu. Elle n'avait pas lieu d'être. Le Seigneur avait déjà donné la réponse. Ce n'est pas à cause de nous, mais la sagesse cachée et parfaite de Dieu, révélée par l'Esprit, a été prédestinée pour que les prédestinés la reçoivent pour leur propre glorification finale. Et vous verrez, à la fin, la différence sera manifestée. Aujourd'hui, nous ne le voyons pas encore, mais aujourd'hui, c'est nous qui souffrons. et qui avons besoin d'être consolés. Aujourd'hui, nous avons des douleurs. Nous souffrons. D'autres marchent dans la rue avec assurance. Les prédestinés entendent maintenant la parole prédestinée. Ils croient aux promesses prédestinées que Dieu a faites dans sa parole. Ils les reçoivent et elles leur sont révélées et faites connaître exactement par le Saint-Esprit, tout comme elles sont révélées et faites connaître à un prophète envoyé par Dieu. Pouvez-vous le croire tous? Moi, j'ose dire que nous n'avons pas besoin de Paul ici, ni de frère Branham non plus. Nous n'avons pas besoin d'Élie. Vous n'avez pas besoin de moi non plus. En fait, nous n'avons besoin de personne, mais nous avons besoin d'une chose. Premièrement, de savoir que nous sommes prédestinés par Dieu et que Dieu réalise un dessein prédestiné. Je dois peut-être encore lire un passage de la Bible pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette pensée. Je pourrais en lire quelques-uns. Mais maintenant, celui de Actes des Apôtres, chapitre 2, pour vous montrer que tout est vraiment prédestiné. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23. Cet homme qui, selon le dessein arrêté et la prédestination de Dieu, vous a été livré. Tout est prédestiné. Christ, en tant qu'agneau de Dieu, a été prédestiné avant la fondation du monde à mourir pour nous, à verser son sang à nous racheter. Et tout comme l'agneau, avant la fondation du monde, vous pouvez le lire, Apocalypse 13, verset 8, tout comme l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde, nous avons été prédestinés. Éphésiens 1, verset 3 à 5, Romains 8, du verset 23, et bien d'autres passages. Nous avons ici la clé, la prédestination divine basée sur la préscience divine. Ceux qui sont prédestinés par Dieu dans un âge de l'Église reçoivent le message et le message prédestiné par Dieu, les deux. Ça, c'est le signe. Il se peut que, parce que le matériel semble un peu nouveau, vous ayez du mal à dire l'amen avec un peu plus de force. Vous constaterez au jour que Dieu fait qu'il en a été ainsi, qu'il en est ainsi et qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin. Devant Dieu, on trouvait grâce les hommes qui, en leur temps, à leur époque, ont écouté vraiment ce que l'Esprit disait aux églises. Non pas ceux qui ont parlé du passé, mais ceux qui ont reconnu leur présent, leur aujourd'hui. Il n'est pas dit, si vous entendez la voix d'hier, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ton aujourd'hui et le mien. Je voudrais encore lire rapidement deux ou trois passages. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Ici, je lis le verset 16. Luc, chapitre 24, verset 16. Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le connaissaient pas. Il y a eu et il y a encore des hommes qui marchent déjà avec le Seigneur et qui ne l'ont pas reconnu. Leurs yeux ont été retenus. Et puisque le temps passe si vite, laissez-moi vous faire connaître ici le mystère. Tant que ces deux-là parlaient, il ne se passait rien. Ce n'est que lorsqu'ils ont parlé et que le Seigneur a commencé à parler. À ce moment-là, quand le Seigneur a commencé à parler, c'est à ce moment-là que leurs cœurs ont commencé à brûler. Et il a commencé par Moïse et tous les prophètes et les psaumes. Et il leur a fait connaître tous les passages bibliques qui s'accomplissaient, qui s'étaient accomplis. Avant cela, c'est eux qui avaient parlé et ont même demandé à notre Seigneur, « Es-tu le seul étranger à ne pas savoir ce qui s'est passé en ces jours ?» En ces jours ? Oui, il était un étranger pour beaucoup. C'est à lui que cela est arrivé, n'est-ce pas, maintenant ? Je vais vous lire la solution de ce problème. Luc 24, maintenant, le verset 35. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Verset 35 maintenant, Luc 24. Et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Le pain. Le soir était venu et le Seigneur voulait continuer à marcher, et on lui a dit, reste avec nous, car le soir est venu et ainsi de suite, ou bien le soir va venir et ainsi de suite. Soudain, peut-être dois-je lire le verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Amen. Alléluia. Quand était-ce? Il se présenta au milieu d'eux. Il prononça la louange et rompit le pain. Il fit ce qu'il avait fait avant sa crucifixion en tant que ressuscité maintenant. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Bien-aimés, je peux dire avec toute vérité que le Seigneur, en tant que ressuscité, est souvent venu parmi nous, au milieu de nous et a rompu le pain. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nous a donné du pain vivant qui est descendu du ciel. Soudain, nos yeux se sont ouverts. Nous l'avons reconnu par révélation divine. Et pourquoi l'avons-nous reconnu? Parce que nous avons soudain eu les yeux ouverts. Nous avons soudain vu, nous avons entendu, nous avons reconnu. Est-ce là ton témoignage? Peux-tu le dire, frère bien-aimé, chère sœur? Est-ce que des hommes ont donné ici le meilleur de leur sagesse? Ou bien est-ce que le plan prédestiné de Dieu, la parole prédestinée de Dieu et les promesses prédestinées ont-elles été présentées ici à la semence divine prédestinée aux fils et aux filles de Dieu? Je pense que nous pouvons le dire en toute conscience. Nous ne nous sommes pas assis au pied d'un homme, Mais nous nous sommes assis à la table avec notre Seigneur. Et il a rompu le pain pour nous. Il nous a révélé la parole de Moïse par tous les prophètes et les psaumes. Il a relié les contextes de l'Ancien et du Nouveau Testament de manière si glorieuse qu'il n'y a plus de bout détaché. Il nous dresse une table face à nos ennemis. On pourrait encore lire de nombreux passages bibliques sur ce thème. Il s'agit de l'intimité, de le reconnaître, d'être reconnu par lui. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais cela nécessite une union dans l'amour de Dieu. Lorsqu'il est écrit dans la Bible, Adam a connu sa femme. Il y a eu une relation, un lien, une union. Si nous avons été connus par Dieu, il doit y avoir eu une relation d'amour, une union entre Dieu et nous. Une union par la parole et l'esprit. Afin que l'esprit puisse prendre la parole et produire une vie nouvelle en nous. Prendre la parole et engendrer une nouvelle vie en nous. Pourquoi les Saintes Écritures disent engendrer une nouvelle vie en nous? Pourquoi les Saintes Écritures disent tel, vous devez naître de nouveau? Oui, sans union, sans semence, il n'y a pas de naissance, ni dans le terrestre, ni dans le spirituel. Peuple de Dieu, l'heure de l'union de son peuple avec Dieu est arrivée, est là. L'heure de la communion intime et de l'amour pour Dieu. Son amour pour nous n'est pas en question. Et nous avons également lu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est là en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais il s'agit maintenant d'avoir cette relation d'amour avec notre époux céleste, de l'aimer vraiment par-dessus tout, comme il est écrit, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » L'homme tout entier doit aimer Dieu de tout son cœur. Dieu envoie des messagers. Il envoie des messages. Dans le dernier âge de l'Église, dans lequel nous vivons, actuellement, il a envoyé son dernier messager. En fait, c'est toujours un message d'amour divin pour nous relier à lui-même, nous unir avec lui-même, pour nous sortir de tout ce qui est humain et pour déposer en nous la semence divine. Puisse le Seigneur profiter de cette journée et de ce service divin pour se révéler à nous, de nous montrer clairement que tout a été prédestiné par Dieu, le Rédempteur et les rachetés, la parole et les promesses, tout ce qui devait arriver a été et est prédestiné. Et tous ceux qui sont dans cette prédestination divine le reconnaissent par révélation, le reçoivent ensuite avec reconnaissance et l'acceptent et sont ainsi insérés dans l'événement divin du salut en ce temps. Permettez-moi de lire pour finir parce que je l'ai encore sous les yeux, afin que tous parviennent à la foi par lui. Jean 1, verset 7. Dieu a en effet envoyé un messager dans notre génération pour que tous entendent la parole, pour que tous se corrigent, pour que tous changent de cap, à savoir tous ceux qui veulent atteindre le but divin. Nous ne voulons pas nous étendre aujourd'hui sur toutes ces différentes choses qui se passent autour de nous, y compris dans le domaine religieux. Pour moi, la parole est très précieuse aujourd'hui. Et j'espère seulement qu'elle nous sera révélée et fait connaître par l'Esprit de Dieu lui-même. Il nous a reconnus. Et nous l'avons reconnu. Il a dit, je connais les miens, et les miens me connaissent. Moi en eux, et toi en moi, afin que nous soyons un. Je t'ai connu, et ils m'ont connu. Oh, on pourrait aller de passage biblique en passage biblique. D'abord, nos yeux étaient retenus, puis soudain, ils se sont ouverts. Ils ont été ouverts. Aujourd'hui, nous voulons remercier Dieu de tout cœur. Amen. Pour cela, amen. Levons-nous. Père céleste, dans la certitude de la foi et la confiance en toi, nous nous approchons du trône de la grâce, aspergé du sang de l'agneau. Le sang parle pour nous et nous déclare libre. Il nous a libérés, acquittés. Il n'y a donc plus rien de condamnable pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur bien-aimé, nous nous plaçons et appuyons sur les promesses de ta parole. Sur la promesse de ta parole, où il est écrit là où deux personnes ne font qu'un, ce qu'elles demandent leur sera accordé. Tu as vu toutes les mains et tous les cœurs. Tu sais ce que chacun demande, que ce soit pour soi-même ou pour lui-même ou pour les autres, pour l'esprit, l'âme, le corps ou pour d'autres besoins. Tu le sais, Seigneur bien-aimé. Nous ne pouvons pas nous empêcher de te prendre au mot aujourd'hui, de te prendre par ta parole aujourd'hui et de croire que tu nous as déjà exaucés et que ce que nous t'avons demandé, nous l'avons déjà reçu de toi. Nous t'en remercions, Seigneur bien-aimé. Puisse maintenant la foi s'élever chez tous ceux qui ont entendu la parole et la prédication, au point qu'ils ressentent déjà ta gloire et que la lumière vienne vraiment dans leur vie. Que le destin soit changé et qu'ils puissent témoigner que tu les as secourus, sauvés, délivrés, guéri, loué sois-tu et exalté, Dieu fidèle. Je suis particulièrement touché pour te remercier pour le fait qu'à chaque prédication, le dessein de Dieu s'assemble plus complètement devant nos yeux spirituels. Seigneur fidèle, en effet, nous allons de clarté en clarté, de connaissance divine en connaissance, de révélation en révélation. Et ce que nous n'avons pas connu, nous le connaissons de plus en plus. Nous t'avons connu. Et tout le reste peut maintenant suivre jusqu'à ce que nous te voyons face à face, face à face. Seigneur, je te remercie encore une fois pour le fait que nous avons été prédestinés à entendre, à croire et à expérimenter personnellement, à vivre tout ce que tu as prédestiné dans ton dessein pour ce temps, pour ce temps. Nous te remercions de tout cœur pour cela et te rendons hommage, te rendons grâce, te remercions en ce lieu. Que ton nom soit loué maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Que tout le peuple dise Alléluia. 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 Que tout le peuple dise Amen. 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 Alléluia. Alléluia.